Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez. RFI vous donne la parole dans 30 minutes. Nous lancerons, comme tous les matins, un débat et nous parlerons tout à l'heure de cette initiative lancée par trois organisations de défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire pour obtenir l'annulation de l'amnistie présidentielle décrétée l'été dernier. Vous en souvenez très certainement, au mois d'août, au nom de la réconciliation nationale, le président Ouattara a amnistié 800 personnes, mais ces trois associations qui sont membres de la Fédération internationale des droits de l'homme, contestent la légalité de l'ordonnance d'amnistie prise à l'époque par le chef de l'État, car le président Ouattara l'a prise, mais sans avoir obtenu le feu vert de l'Assemblée nationale. Ces ONG dénoncent donc une violation de la Constitution. Elles affirment également que cette ordonnance va à l'encontre du droit des victimes, puisque ces personnalités ont été amnistiées, il n'y aura pas de procès. Or, ces associations affirment que sans justice, il ne peut y avoir de réconciliation durable. Elles ont donc saisi la Cour suprême pour obtenir l'annulation de cette amnistie présidentielle. On en parle, le sujet fait réagir évidemment, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, les journalistes de RFI vous répondent en direct pour vous permettre de mieux comprendre l'actualité, de mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. On va commencer avec Joe qui nous appelle de Cotonou. Bonjour Joe.
Oui, bonjour Juan.
Merci de nous écouter au Bénin. Vous avez des questions sur le Sénégal où l'on se dirige vers un régime présidentiel.
Oui, effectivement, le président Macky Sall a annoncé la suppression du poste de Premier ministre. Pourquoi cette décision et est-ce que cela signifie qu'il aura davantage de pouvoir?
Oui, décision qui a pris un peu tout le monde de court, hein, puisque 3 jours ou 4 jours, si ma mémoire est bonne, à peine après son investiture pour un second mandat, il a effectivement annoncé qu'il voulait refonder le système politique sénégalais en supprimant à terme la fonction de Premier ministre. Bonjour William Delesseux.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Dakar. Pourquoi vouloir supprimer le poste de chef de gouvernement? Pourquoi une telle décision?
Alors oui, hein, vous l'avez dit, Juan, elle a surpris tout le monde ici, hein, cette annonce de Macky Sall. Le pouvoir a expliqué que c'est la première partie, le préalable à une réforme globale de l'administration et de la gouvernance. Il faut supprimer des échelons d'après le chef de l'État, et ce en vue de donner plus d'efficacité, plus de vigueur même à l'action du gouvernement sur le terrain. Il faut que les Sénégalais ressentent plus vite sur le terrain les décisions qui sont prises au palais présidentiel à Dakar. Et moins d'échelons, moins de strates, cela doit commencer au sommet de l'État. Plus de Premier ministre, hein, car Macky Sall veut être en prise avec son administration pour son nouveau quinquennat, qui dépend aujourd'hui, une administration qui dépend en grande partie de la primature. Ce sont les services du Premier ministre. Et encore sonné hein, par sa défaite en février, l'opposition s'est assez peu exprimée sur le sujet. Seules quelques voix se sont élevées pour dénoncer un exercice solitaire du pouvoir par Macky Sall. D'autres hein, se félicitent en disant qu'il n'y a plus de fusible et que si l'exécutif fait une erreur, le président en sera tenu directement responsable.
Supprimer donc la fonction de Premier ministre, concrètement, William Delesseux, comment cela va se dérouler maintenant?
Alors, pour supprimer la fonction, il va falloir lancer un gros chantier législatif, ça ne se décrète pas. Un projet de loi doit être écrit, c'est au Conseil des ministres que cela va se passer, et peut-être même dès aujourd'hui avec le premier conseil de la nouvelle équipe gouvernementale qui a été nommée dimanche. Un projet de loi, donc, direction pour le texte ensuite l'Assemblée nationale du pays, où le texte devra être adopté par les 3/5 des députés, puisque dans tout ça, c'est la Constitution qu'il faut modifier, comme en 1963 et en 1983, sous deux présidents, Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, hein, qui eux aussi s'étaient passés d'un Premier ministre.
Effectivement, ce n'est pas une première dans l'histoire politique du Sénégal. J'imagine également qu'il va falloir procéder à quelques modifications de la Constitution.
Oui, le terme de Premier ministre apparaît plus d'une quinzaine de fois dans le texte. Il va falloir l'effacer, mais pas seulement. C'est toute la structure du régime qui sera modifiée. Mohamed Bounabdallah Diol, le Premier ministre actuel, a déjà été nommé secrétaire général auprès de la présidence de la République. Ce sera son job à plein temps, une fois la réforme validée et la constitution réécrite.
Ouais. En tout cas, c'est une réforme d'ampleur qui se prépare au Sénégal. Est-ce que cela signifie, comme le demande Joe, plus de pouvoir finalement pour Macky Sall ?
Alors, sur le papier, c'est le cas. Le régime politique sénégalais va pencher encore un peu plus du côté du président. C'est déjà un régime à dominante présidentielle, mais après tout, la majorité lui est déjà largement acquise à l'Assemblée. Donc cela ne remet pas en cause l'équilibre des pouvoirs, là, tout de suite, à court terme. Cela fait peut-être partie d'un projet politique à plus long terme. Il faut dire que les prochaines élections législatives sont dans un peu plus de 3 ans. Et là, que se passe-t-il si le président n'a plus de majorité ? Autre question, sans Premier ministre, qui sera responsable devant l'Assemblée ? Et enfin, dernière interrogation des constitutionnalistes ici à Dakar, est-ce qu'on pourra même parler d'un gouvernement autour de Macky Sall une fois que le Premier ministre aura disparu ? Alors, le président devrait préciser ses points d'ici quelques jours. Il faudra voir le contenu aussi, le contenu du texte qui sera présenté aux députés prochainement.
À suivre donc. Joe, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, Rohan, parfaitement.
Bonne journée à Cotonou et un grand merci évidemment à William Delesseux, correspondant de RFI à Dakar. Vous nous écoutez justement dans la capitale sénégalaise. Vous souhaitez peut-être commenter, réagir à cette décision de supprimer le poste de Premier ministre ? Eh bien, appelez-nous et on se fera un plaisir de vous donner la parole vendredi dans la Libre Antenne. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Juan.
Chef du service des sports de RFI, nous avons reçu des questions concernant le racisme dans le football italien. Mijo, bonjour.
Oui, bonjour Rohan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Pointe-Noire au Congo, nous vous écoutons.
Oui, le racisme semble courant dans le foot. Et la semaine dernière, Moïse Kine et Blaise Matuidi ont été visés par des cris de singe en Italie pendant un match de foot. Sachant que c'est un phénomène récurrent, des sanctions ou des mesures ont-elles déjà été prises pour lutter contre ce fléau dans le foot italien ?
Alors,
comment réagir l'UEFA suite à ces nouvelles incidents ?
Ah, l'UEFA, la réaction de l'UEFA. Alejandro Valente, Mijo le rappelait à l'instant, c'est vrai que le racisme, on a comme l'impression qu'il gangrène le football italien, que le phénomène est récurrent et que les instances dirigeantes du championnat italien ne parviennent pas à endiguer le phénomène.
C'est vrai, ou ne parviennent pas, ou ne veulent pas forcément le faire, parce que la fédération italienne reste quand même assez impuissante devant tous ces phénomènes. Certains pointent le fait que le gouvernement italien, qui en partie est composé de l'extrême droite, ne pousse pas les instances à aller dans ces sens. Donc c'est probablement une explication, mais on sent que le mal est profond. Mmh. Et dans l'affaire qu'évoquait Mijo, justement, Moïse Kean a été insulté après avoir marqué un but qu'il est allé célébrer devant les supporters. Et Leonardo Bonucci, son coéquipier, grand international italien, l'avait critiqué après le match en disant que la responsabilité 50-50 entre Kean et les supporters qu'il avait insultés, car il n'aurait pas dû aller les provoquer en quelque sorte. Évidemment, ça a provoqué un tollé. Bonucci s'est excusé dès le lendemain, a voulu reprendre ses mots, mais les mals étaient faits et le football italien est sorti un peu plus souillé par ses propos.
Mais la fédération italienne prend quand même des mesures. J'ai cru comprendre que depuis le début de l'année, dès qu'il y avait des chants racistes dans un stade, les joueurs devaient s'arrêter de jouer, se rassembler au milieu du terrain. Si jamais il y avait de nouveau des chants racistes, à ce moment-là, l'arbitre devait prendre la décision de stopper le match.
Mais ça, c'est pas la fédération italienne. En fait, c'est l'UEFA qui a donné une recommandation aux arbitres qui consiste à agir en 3 phases. Donc, une première phase consiste à arrêter le jeu, à réunir les joueurs et à demander aux supporters par haut-parleur d'arrêter leur comportement. Si cela ne suffit pas, l'arbitre doit envoyer les équipes au vestiaire et des nouveaux appels doivent être lancés. Et la troisième étape consisterait à arrêter définitivement le match. Ça, c'est les recommandations de l'UEFA.
De l'UEFA, d'accord.
Mais qui n'ont jamais été appliquées, en tout cas jusqu'au bout. Par exemple, lors d'un récent match inter-Naples, en début d'année, Koulibaly, les défenseurs sénégalais avaient été insultés à Milan et l'arbitre avait appliqué la première étape de ce plan mais n'était pas allé plus loin ensuite. Et il avait été soutenu par les autorités italiennes qui estimaient qu'il aurait été dangereux d'arrêter le match. Donc l'Inter avait ensuite été sanctionné avec la fermeture du stade et d'autres mesures.
Ouais, donc il faudrait des arbitres, disons-le, peut-être un peu plus courageux en Italie.
Oui, probablement en Italie et ailleurs, parce qu'il y a une autre affaire qui a un peu relancé la question, c'est le match Monténégro-Angleterre fin mars. Pour l'Euro 2020, où Sterling et d'autres joueurs anglais ont été insultés par les publics du Monténégro. Et là, ça a fait un énorme ramdam en Angleterre. Et aujourd'hui, la fédération anglaise demande carrément qu'on remplace le plan de l'UEFA par un arrêt du match direct, tout simple, dès qu'une insulte est proférée.
Oui.
Voilà, c'est
certains supporters seraient prêts, justement, à provoquer juste pour faire du ramdam et dire, voyez, nous au moins on a réussi à interrompre un match de football, à stopper un match de football.
Là il faudra voir ce que fait l'UEFA. Le 16 mai elle doit prononcer une sanction éventuellement contre le Monténégro. Seferin, le secrétaire général de l'UEFA, a demandé aux arbitres d'être courageux et d'appliquer les choses qui ont été dites. On s'attend peut-être aussi à qu'un jour les capitaines d'une équipe décident de rentrer au vestiaire directement. Harry Kane, le capitaine anglais, a dit que la prochaine fois il fera ça, mais bon, pour l'instant on dit on fera ça et on le fait pas. Il faudrait aussi qu'on utilise les moyens technologiques pour identifier les auteurs des insultes et les traîner devant les tribunaux
et les interdire de stade à vie. C'est une des mesures préconisées par certaines personnalités. Alejandro Valente, merci beaucoup d'être venu répondre à Mijo, à qui nous souhaitons une belle journée à Pointe-Noire au Congo, 10h22 à Paris. Des questions sur le Brexit, nous sommes à 2 jours, à 48 heures de la date officielle pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Merci Juan. Theresa May demande un nouveau report du Brexit à l'Union européenne. Mm-hmm. À quelles conditions l'Union européenne pourrait-elle accepter ?
Ah, c'est une bonne question. C'est Catherine Mathieu qui, une fois de plus, se libère quelques minutes pour répondre aux auditeurs de RFI. Bonjour Catherine Mathieu.
Bonjour.
Économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, vous êtes spécialiste du Royaume-Uni. Ce soir, lors d'un sommet exceptionnel à Bruxelles, la première ministre britannique va donc solliciter un nouveau report. Visiblement, les 27 seraient d'accord, car il faut, rappelons-le, l'unanimité des 27 pour obtenir ce nouveau report. Mais à quelles conditions ?
Alors, en fait, ce que souhaitent, d'après ce qu'on peut entendre aujourd'hui, les chefs d'État européens, ce sont des choses assez différentes sur le report. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont, je pense probablement éviter que le Royaume-Uni sorte sans accord le 12 avril, mais ensuite, certains États souhaitent un report assez tardif, qui pourrait être d'ici un an, voire d'ici la fin 2020, c'est le cas de l'Allemagne particulièrement, et d'autres pays souhaitent un report qui soit plus court. On dit que c'est le cas pour la France, par exemple. Mmh. Et Theresa May a demandé un report jusqu'au 30 juin. Donc ça serait la date idéale pour les Britanniques pour sortir de l'Union européenne. Mais tout l'enjeu, je pense, ce soir pour Theresa May, ça va être d'obtenir ce délai assez court, alors que certains pays disent, attention, vous nous dites le 30 juin, mais en fait, peut-être vous demanderez ensuite d'autres reports successifs. Et donc, disons tout de suite que le report sera plus long. Alors, ça pose de nombreuses questions, notamment à Theresa May, qui aimerait pouvoir faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne dès que possible et éviter que les Britanniques présentent des candidats aux élections européennes.
Mmh. Enfin, on entend parler de conditions, on entend dire que certains États voudraient obtenir des garanties de Theresa May, notamment que si le report est accordé, que le Royaume-Uni ne s'engage pas, par exemple, à bloquer le budget de l'Union européenne, à bloquer la nomination du président de la Commission, puisque théoriquement, jusqu'au minimum jusqu'au 30 juin, le Royaume-Uni sera toujours au sein de l'UE.
Oui, mais alors justement, s'il reste jusqu'au 30 juin seulement dans l'Union européenne, le Royaume-Uni ne participera pas à la première réunion du Parlement européen et sera sorti de l'Union européenne lorsque la nouvelle Commission européenne se mettra en place. Mais si le délai est plus long, c'est ça qui pose problème à certains, États aujourd'hui, comme la France et à Michel Barnier. Ça veut dire qu'effectivement, en principe, le Royaume-Uni pourra demander à avoir ou poser des candidatures pour avoir des commissaires européens, pourra prendre part aux discussions sur le budget, alors il y aurait vraiment là une grande incohérence entre le fait de dire qu'on sort de l'Union européenne et puis qu'on continue à rester dans les instances européennes.
Merci beaucoup Catherine Mathieu, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Ibrahim, bonne journée à vous. Merci de nous appeler de Conakry. Trésor nous rejoint. Ah, on me dit que Trésor, ça vient de couper. Trésor qui est à Kisangani, qui a suivi sur RFI il y a quelques jours le 70e anniversaire de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Alliance Atlantique Nord. Il nous a donc appelé. J'essaie de combler, mais si on me dit qu'on le réseau ne passe plus avec Kisangani, je me ferai donc son porte-parole. On me dit que ça sonne. Mathieu Quincé, bonjour.
Bonjour.
Le temps de rappeler notre auditeur, je rappelle que vous êtes chercheur au Think Tank, qui est un laboratoire d'idées, German Marshall Fund of the United States. Vous avez évidemment suivi de près ce 70e, on me dit, anniversaire de l'OTAN. Trésor, vous êtes avec nous.
Oui, bonjour Juan.
Quelle est votre question? On vous écoute.
Oui, à l'occasion du 70e anniversaire de l'OTAN, les pays membres de l'organisation se sont réunis dans le contexte d'incertitude marqué par les déclarations de Donald Trump de se retirer de l'OTAN. Mmh. Maintenant, j'aimerais savoir, Trump menace régulièrement de se retirer de l'organisation atlantique. Mmh. Quelles seraient alors les conséquences pour la défense européenne face à cette situation?
Alors, Martin Quincé, le président américain, c'est vrai, martèle régulièrement que les États-Unis n'ont pas à financer la défense des Européens, que les États-Unis dépensent trop pour les autres. Peut-on imaginer qu'un jour, il claque la porte de l'OTAN, déjà?
Alors oui, c'est imaginable, il ne faut jamais dire jamais, surtout avec Donald Trump. Ce serait difficile dans le contexte politique américain, puisque les républicains, tous son parti, ont plusieurs fois renouvelé leur confiance en l'OTAN et dans les alliés. Maintenant, les conséquences d'un retrait américain seraient vraiment importantes au niveau transatlantique, mais d'abord au niveau européen. Ça serait une crise européenne vraiment très sérieuse. Les États-Unis, dans le cadre de l'OTAN, garantissent la sécurité des pays européens, et notamment d'un certain nombre de pays en Europe centrale, autour de la mer Baltique, qui sont très très inquiets de la politique russe et de la menace que la Russie fait peser sur leur territoire. Si les États-Unis ne garantissent plus leur sécurité, ces pays-là vont devoir réagir, alors de différentes manières. Chercher à faire des accords bilatéraux avec Washington, c'est-à-dire donner à Donald Trump tout ce qu'il exige pour maintenir la présence américaine et les garanties. Deuxième possibilité, se tourner vers Moscou et faire à ce moment-là une forme de d'accord, ou en tout cas un rapprochement avec la Russie pour apaiser la situation actuelle. Mais dans les deux cas, il y aurait des divisions européennes, on verrait moins de solidarité entre pays européens, et ce serait un peu chacun pour soi.
Ouais. Et sans les États-Unis, première puissance mondiale, l'OTAN n'a plus sa raison d'être, l'OTAN sera donc vouée à disparaître.
C'est ça. L'OTAN, évidemment, n'est pas que les États-Unis, mais sans les États-Unis, il n'y a plus d'OTAN. Il faut bien comprendre qu'un certain nombre de pays ne pensent pas que les pays d'Europe de l'Ouest peuvent les protéger. Donc, ils ne pensent que à la protection américaine. Si les États-Unis se retirent, la situation est totalement changée. Et pour moi, la première conséquence, c'est davantage de divisions européennes. Je ne pense pas qu'il va y avoir une sorte de grand mouvement européen pour compenser le retrait américain. Ensuite, il y a une crise plus dans le cadre de la politique de défense, puisque tous les pays qui sont dans l'OTAN participent à un certain nombre d'initiatives, font des programmes d'homogénéisation. Il va falloir reconstruire un format de coopération et de coordination pour nos politiques de défense. Donc tout est à refaire.
Merci beaucoup Martin Quincé d'avoir été avec nous quelques minutes et on s'excuse pour les petits problèmes de téléphone avec Trésor qui nous appelait de Kisangani. D'autres questions à la rédaction demain matin. D'ici là, appelez-nous et nous avons évidemment besoin de connaître vos questions avant que l'émission commence pour contacter nos experts, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. 33 9 693 693 soit Santoni. À suivre, le journal est dans 10 minutes, notre débat sur la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.